Je suis absolument ravi, fier, honoré que Jonathan Coe, Jérôme Ferrari et Durs Grünbein soient parmi nous ce soir pour partager ce qui les unit dans leur parcours littéraire, à savoir cette relation très spéciale avec leur éditeur ou leur éditrice, Joanna Pryor, Marie-Catherine Vacher et Thomas Spahr. Et pourquoi, à l'heure où on ne parle que de désintermédiation, ce travail avec un éditeur, ou une éditrice bien sûr, reste d'une telle acuité et d'une telle actualité? C'est donc la quatrième fois que la Fédération des éditeurs européens, qui regroupe 28 associations d'éditeurs de livres et de revues scientifiques de l'Union européenne et de l'espace économique européen, organise une telle manifestation. La Fédération des éditeurs européens nous représente auprès de vous. Vous ne le savez peut-être pas, mais la Fédération des éditeurs européens, c'est une équipe qui travaille au jour le jour sur tous les dossiers que vous êtes amenés à étudier et qui sont relatifs à l'édition, au livre de manière générale. Ils sont là tous les quatre ce soir et ils nous ont vraiment comblés en organisant cette soirée. Anne Bergman-Taron, qui en est la directrice générale, qui peut se lever pour que vous les voyez. Enrico Turin, Liv Weisberg, Laura Hulgat et Julie, notre stagiaire, qui a un rôle très important ce soir. N'hésitez pas à faire appel à eux et à nos collègues quand vous avez des questions sur l'édition. Alors pourquoi ces dialogues? C'est vrai, pourquoi? Eh bien, demain, ou après-demain, ou le jour d'après, vous allez vous pencher sur des dossiers qui vont avoir une très grande influence sur le secteur de l'édition de livres. Que ce soit le droit d'auteur, qui pour nous est la pierre d'angle de l'investissement de nos auteurs et de nos maisons d'édition. N'oublions jamais que l'éditeur est celui qui investit en premier financièrement sur un ouvrage, par l'avance qu'il verse, en principe, à l'auteur avec lequel il a signé un contrat. Vous ne le savez peut-être pas, mais en moyenne, seul un livre sur 10 est rentable. 7 livres sur 10 perdent de l'argent. Mais si on ne faisait pas ces 7-là, on aurait des remords, parce que ces 7 livres, ces 7 ouvrages, ont autant de valeur que les autres, puisqu'une œuvre, ça se construit dans le temps, dans la durée, dans un parcours, et c'est pour ça que les succès d'aujourd'hui permettent de financer les succès de demain, tout au moins les auteurs dans lesquels nous croyons. Sans le droit d'auteur, sans ses engagements, celui de l'auteur, celui de son éditeur et de toute sa maison d'édition, eh bien les relations seraient altérées et très vite, c'est la diversité culturelle qui serait mise à mal. Et quand on parle de diversité de nos jours, trop souvent, on oppose le travail d'un auteur, ou de plusieurs, mais le travail d'un auteur, et des multiples acteurs d'une maison d'édition, puisque ça concerne bien sûr l'éditeur ou l'éditrice, la fabrication, les relations avec la presse, la promotion, le commercial, etc., avec celui des millions d'internautes qui partagent vidéos ou blogs à titre gratuit ou payés par la publicité. On se trompe. C'est de choix ici que l'on parle, de choix de publication, et ces choix sont des choix humains et pas des choix d'algorithme. Le choix pour tout un chacun de publier en ligne son livre, sans l'aide de personne ou presque. Le choix aussi pour tout auteur, de rencontrer un éditeur, de construire ensemble une œuvre, et de vouloir bien sûr bénéficier d'une juste rémunération, quand cette œuvre, et seulement quand cette œuvre, trouve son public. Et souvent grâce à l'éditeur, mais aussi aux libraires, ne les oublions pas, qui font un travail absolument formidable et essentiel dans cette grande chaîne du livre. Voici pourquoi, quand vous serez confrontés aux propositions de la Commission sur le droit d'auteur, j'espère que vous aurez à cœur de stimuler la créativité et la diversité culturelle qui sont essentielles à nos yeux et dans la mission qui est la nôtre. Et il y aura de moins en moins de diversité culturelle si la concurrence avec ses prescripteurs que sont les libraires libres, si cette concurrence n'est pas une concurrence équilibrée où tous ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Je pense bien évidemment aux règles fiscales qui aujourd'hui favorisent de grands groupes, souvent anglo-saxons, et mettent à mal leurs concurrents qui ne pratiquent pas l'optimisation fiscale, c'est-à-dire les libraires locaux, nationaux et tous les autres qui sont des points de vente de livres au milieu d'une autre activité. Je pense aussi à l'interopérabilité. Comment accepter le fait qu'on ne puisse pas lire tel ou tel livre sur tel ou tel instrument? L'interopérabilité, c'est permettre à chacun de lire sur une liseuse, quel que soit son modèle, quelle que soit sa marque, et de pouvoir en profiter. Je ne vais pas m'éterniser, je ne veux pas prendre trop de temps, mais juste un mot sur la fiscalité du livre numérique. Si la France et le Luxembourg ont aligné les taux de TVA du livre imprimé et du livre numérique, cette action est contestée aujourd'hui par la Commission européenne devant la Cour de justice. Et nous avons besoin de vous, mesdames et messieurs les députés, pour faire pencher la Commission et pour que les États membres qui le souhaitent, comme l'Italie ou la Belgique, où un projet de loi vient d'être déposé, puissent avoir un taux réduit qui vise à encourager la lecture et non pas l'utilisation du papier. C'est la lecture qu'il faut encourager. En Allemagne et puis maintenant en France, nous avons organisé un jeu, les petits champions de la lecture. Les enfants ont 10 ans, ils sont scolarisés, ils sont préparés par leurs professeurs. 15 000 ont joué ce jeu l'année dernière avec une grande finale sur la scène de la Comédie française. Imaginez, meilleure façon de voir la lecture quand on est enfant, en commençant comme ça par la lecture à voix haute. À ce titre, nos collègues italiens ont lancé une campagne de sensibilisation qui s'intitule « Un libro » et nous vous invitons à participer à cette campagne en vous faisant photographier devant la bannière, en vous voyant si nombreux et en regardant Jonathan, Jérôme et Dours. Je les appelle par leur prénom parce qu'il y a déjà, en tant qu'éditeur moi-même, une familiarité qui existe. Je me réjouis en tant que président de la Fédération des éditeurs européens que le livre nous réunisse ce soir. Le livre, pour chacun de mes collègues éditeurs, a voué sa vie. Ce livre qui nous fait voyager, ce livre qui nous informe, nous amuse, nous fait pleurer ou frissonner, ce livre qui est notre compagnon sur notre table de chevet, sur nos étagères, et ma maison en est pleine au grand dam de toute ma famille, ce livre qui se transforme, qui rencontre Internet, les autres médias, ce livre, ce soir, demain et toujours, il a besoin de vous. Il a besoin de vous comme lecteur, bien sûr. Et on en a parlé avec quelques-uns d'entre vous, et c'est formidable de savoir que vous êtes des lecteurs, mais aussi comme législateur compréhensif et amoureux de ce produit unique que nous ne changerions pour rien au monde, qu'est le livre. Nous sommes soutenus ce soir par deux sociétés de gestion collective. Et la gestion collective, c'est quelque chose aussi d'essentiel dans le bon fonctionnement de notre chaîne du livre. Vauge Wort, qui ne peut malheureusement pas être avec nous, et la SOFIA. La SOFIA qui gère le droit de prêt numérique en France, tout ce qui fait qu'un auteur, où qu'il soit, puisse être rémunéré pour son œuvre quand elle rencontre son public, quel que soit ce public. Et la SOFIA a une particularité formidable dans la réunion que nous avons ce soir, mais aussi dans la vie de tous les jours, qu'elle est paritaire, auteur et éditeur. Et son président est là, Alain Absir, un grand écrivain français qui préside, en plus de son activité littéraire, cette activité essentielle à l'équilibre économique du livre. Son directeur général, Christian Roblin, est là également. Il nous sponsorise ce soir et c'est avec un grand plaisir, cher Alain, que je vous passe maintenant la parole.
Bien, merci Pierre pour cette présentation de la SOFIA. Comme ça, je n'ai plus à le faire. Donc, c'est vraiment très bien. En tout cas, je crois que ce qui est important dans ce que vous avez dit et qui cadre tout à fait avec cette soirée d'aujourd'hui, c'est cette parité. C'est-à-dire que nous sommes main dans la main, auteur-éditeur, depuis le seuil des années 2000, à l'occasion de la mise en place du droit de prêt du livre papier en bibliothèque en France. Et c'était une première, c'était une grande révolution, en réalité, non seulement dans le monde des sociétés de perception, mais tout simplement dans le monde de l'édition et dans la vie des auteurs, que cette entente qui s'est faite et qui a abouti au vote d'une loi très 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 importante, très essentielle, qui nous permet encore aujourd'hui de distribuer quelques millions d'euros aux auteurs et aux éditeurs à 50-50%. Donc ces dialogues auteurs-éditeurs, oui bien sûr, nous auteurs, nous savons ce qu'ils signifient, savons qu'ils sont synonymes d'écoute, de patience, de confiance réciproque et dans la durée. Et j'insiste beaucoup sur cette notion de réciprocité, car je pense qu'elle est essentielle, c'est le fondement essentiel de ce que l'on appelle parfois un couple, qui est un couple éclairé, qui peut être un couple conflictuel, mais qui est un vrai couple, et qui, comme tous les couples, vit sa vie. En tout cas, là est la source première de la création littéraire et de son exploitation commerciale. Et je crois qu'aujourd'hui, vous en avez tracé les grandes lignes, Pierre, face au nouvel écosystème du monde du livre, issu du développement et des nouveaux usages liés à l'Internet, ce dialogue ne cesse de s'intensifier. Et nous le vivons depuis 4 ou 5 ans, et nous voyons bien, nous avons vu en France en particulier, avec un accord sur le contrat d'édition qui comporte beaucoup de nouveautés, et un accord qui a fini par se faire. De même que nous avons pu travailler ensemble sur l'établissement d'une véritable réglementation sur la gestion des œuvres indisponibles du XXe siècle qui sont en cours de numérisation à raison de dizaines de milliers par an par la BNF. Donc ce dialogue, il existe. En réalité, nous savons tous que les éditeurs détiennent leurs droits d'exploitation des auteurs et que, à l'inverse, les auteurs dépendent de leurs éditeurs pour l'exercice de ces droits. Donc, nos intérêts sont étroitement liés. Et j'aimerais parler, plutôt que de couple, d'alliance. Je crois que cette alliance, elle est aujourd'hui extrêmement essentielle et son enjeu est considérable. Il ne concerne pas que la France, bien sûr, il concerne toute l'Europe. Son enjeu, c'est bien le renforcement et la consolidation du droit d'auteur face aux usages du livre et de la lecture, aux nouveaux usages du livre et de la lecture, et aussi face aux nouveaux acteurs. Le big, groupe de pression, de certains usagers peut-être, d'acteurs globaux surpuissants, qui opèrent un véritable transfert de valeur de la création culturelle au contenu exploitable. La production, je n'aime pas beaucoup ce mot, la création plutôt, de l'esprit est une valeur qui transcende le commercial et qui transcende l'exploitable. Or, aujourd'hui, le risque que nous courons tous, c'est bien une dissémination sans contrôle des livres, des œuvres, des contenus. Avec l'instauration d'une sorte de libre service, de la consultation ou de la lecture, qui permettent à tout un chacun d'accéder immédiatement, et Dieu sait si cette immédiateté est un danger probablement pour nous tous, immédiatement à toute ou partie d'une œuvre, à une consultation ou à une lecture, sans pour autant que la moindre contrepartie ne soit accordée à cette chaîne du livre qu'on évoquait tout à l'heure. En réalité, le livre représente une puissance commerciale beaucoup plus importante que ce que l'on pense en réalité. Et cette puissance, il faut pouvoir en tenir compte, il faut pouvoir la maintenir, et notre conviction est qu'elle ne se maintiendra que par la qualité des contenus, laquelle est en quelque sorte sanctifiée, soutenue, récompensée, vitalisée, maintenue en vie par le droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'est d'abord notre liberté à nous créateurs, je suis écrivain, vous l'avez dit, et j'en sais quelque chose, notre liberté à nous créateurs d'écrire, de créer comme nous le voulons, comme nous l'entendons, sans être dépendant réseaux économiques ou financiers qui n'auraient rien à voir avec ce que nous voulons faire, sans être dépendant des pouvoirs établis. Notre liberté de créer. Et c'est de cette liberté de créer que dépend notre identité culturelle. Et cela dépasse le livre, cela concerne tous les domaines de la culture. C'est notre rayonnement intellectuel, c'est notre puissance économique qui est liée, qui sont en jeu. C'est notre image à tous. Et c'est évidemment tout cela dans les particularités concernant chaque pays européen. Aujourd'hui, parmi les 10 priorités de la Commission européenne, figure une réflexion conduisant à un projet de réforme du droit d'auteur. Plutôt que du beau projet de réforme, j'aimerais mieux penser à un concept d'adaptation, peut-être. Mais jusqu'où doit aller cette adaptation? Voilà quel est le point cardinal. Faut-il, par exemple, que les exceptions au droit d'auteur soient étendues, élargies? Je n'en suis pas certain. Faut-il aussi que la copie privée numérique soit remise en cause? C'est également une question qu'il faut se poser. Je signale d'ailleurs que c'est la copie privée numérique de l'écrit qui permet aujourd'hui à la SOFIA d'être partenaire de ces dialogues, et ce n'est pas rien. Enfin, j'aimerais pour terminer insister sur le fait que cette adaptation aux usages, aux nécessités de notre temps, si elle se fait dans l'intérêt des auteurs, des éditeurs, de tous les maillons de la chaîne du livre, les libraires ou les bibliothécaires, elle se fait aussi dans l'intérêt du lecteur. Et que le premier intérêt du lecteur, à mon avis, ce n'est pas forcément d'avoir accès à tout et n'importe quoi, d'autant plus que, si nous n'y prenons garde, l'accès privilégié des contenus, noyé dans une masse assez indistincte d'œuvres sur l'Internet, ne se fera qu'en fonction de priorités liées à des intérêts commerciaux au lieu des intérêts qualitatifs. L'intérêt du lecteur, c'est aujourd'hui, grâce à ce dialogue auteur-éditeur, grâce à ce droit d'auteur, de pouvoir se repérer, de pouvoir choisir, de pouvoir décider, de pouvoir savoir quel est le choix qu'il a à faire de ses lectures et de ce qu'il risque d'aimer, de ce qu'il risque de lui apporter, et le mot risque n'est pas juste, ce qui va sans doute lui apporter tout cet enrichissement qu'il est en droit d'attendre. Oui, aujourd'hui, le droit d'auteur est le fondement de la réussite de notre politique culturelle commune et également, bien sûr, individuelle au niveau de chaque État. Surtout, ne l'oublions pas, ne l'oublions jamais. Nous sommes ici pour en témoigner et notre espoir est grand. Merci à tous.
Alors, le moment est venu maintenant de vous faire voir, de vous faire entendre, comprendre ce que sont ces relations entre les auteurs et les éditeurs que nous venons d'évoquer avec Alain Absir. Et le premier duo est un duo français. Et c'est pour moi vraiment une grande joie d'accueillir Jérôme Ferrari. On ne se connaissait pas, on a fait connaissance et je crois qu'on se connaît déjà bien. Et c'est quelque chose qui va très vite. Et Marie-Catherine Vacher, son éditrice, qui appartient à une maison formidable qui s'appelle Actes Sud. Et ils vont dialoguer tous les deux. Mais pour dialoguer, il faut quelqu'un qui vous les présente, qui vous dise un peu qui elles sont. Et ce quelqu'un, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré à la télévision. Il a complètement changé la télévision et la culture en France. Je le dis parce que c'est vrai et que tout le monde le connaît. Et il met maintenant, avec la générosité qui est la sienne, tout son talent, toutes ses connaissances au service du Parlement européen. C'est Jean-Marie Cavada qui est membre du Parlement européen, membre français et vice-président de la commission juridique. C'est quelqu'un de très important dans notre pays. Je vous passe la parole, Jean-Marie. C'est un honneur pour moi de vous passer le micro.
Avec une présentation comme ça, je n'ai plus qu'à mourir sur le champ. Je n'aurai plus jamais autant d'honneur. Merci infiniment de votre indulgence. Mesdames, messieurs les auteurs, sans qui nous n'aurions pas de miroir et encore moins sans doute d'âme. Mesdames, messieurs les éditeurs, ceux qui travaillaient dans les entreprises d'édition et de diffusion, chers collègues parlementaires, depuis hier, il règne sur cette maison un souffle de culture inouï. Hier soir, la musique autour de M. Placido Domingo, d'une jeune lauréate de son concours qui s'appelle Operalia, et d'un groupe néerlandais tout à fait remarquable de musique contemporaine. Ce soir, l'écriture. J'attends pour demain, sans doute, Jeff Koons, ensuite des danseurs, ensuite, bref. Mais ça arrivera. Vous attendez de moi que je présente des personnes que je ne connais que de loin, et j'aurais vous demandé la permission de ne pas le faire. D'abord parce qu'ils le feront bien mieux que moi, c'est une évidence. Et puis aussi parce que je voudrais souligner deux ou trois choses, étant l'un des parlementaires, comme mes autres collègues qui sont là. Il se trouve que on m'a demandé de coordonner le groupe de travail qui se met en place sur le droit d'auteur. Donc ça tombe bien, puisqu'au fond je vais être votre partenaire et si possible votre esclave, et je ne m'en plaindrai pas si c'était le cas. Je voudrais parler de politique, non pas au sens des passions partisanes, qui d'ailleurs m'intéressent assez peu, que je ne sais pas très bien refléter. La vie est faite de quelque chose de beaucoup plus subtil et de plus profond que ça, mais de politique au sens d'organisation d'un continent dans lequel vous avez votre place. Ensuite, si vous me permettez, je laisserai Marie-Catherine Vacher et M. Ferrari se présenter eux-mêmes. Étant entendu, je vous ai demandé la permission de me retirer très rapidement ensuite, parce que j'ai la même obligation en ville tout à l'heure, avec un petit peu de retard, mais ils me pardonneront. Je voudrais vous dire que la séquence qui s'ouvre et qui remet sur la table la question du droit d'auteur n'est pas quelque chose d'anodin ni de circonstanciel. Et depuis longtemps, des forces poussent pour privilégier les industries du tuyau par rapport aux industries, si je peux utiliser ce mot, l'artisanat en tout cas, des contenus. Pour fâcher mon auditoire, je dis souvent, quand il n'est pas du métier comme vous, que nous sommes dans la situation des Iraniens lors du coup d'État de Mossadegh, ou bien des Libyens, ou bien des Irakiens qui avaient dans leur sous-sol les richesses pétrolières qu'ils ignoraient plus ou moins, et qui ont enrichi non pas les peuples qui marchaient sur ces sols, mais qui ont enrichi les marchands de tuyaux, les transporteurs de bateaux, les raffineurs et les distributeurs. Nous sommes aujourd'hui, par rapport au continent américain et demain par rapport au continent asiatique, au pluriel, dans la même situation. Mais là encore, un peu comme les pétroliers, il se trouve que le commerce extrait d'un continent qui a cette richesse, et dans ce cas précis, il s'agit de richesse culturelle, est un commerce qui est une sorte de brigandage bizarre, puisqu'au fond c'est un des rares commerces qui se soustrait aux obligations commerciales, aux obligations fiscales, à l'expatriation des profits, à tel point même que l'administration américaine du Trésor, il y a quelques années maintenant, a demandé à l'un des exploitants avec qui nous nous bagarrons actuellement dans ce Parlement, de négocier et de restituer une partie de ses avoirs qui était de l'argent improductif, mais d'une telle masse que ça en faisait scandale, de les rapatrier en diminuant les pénalités possibles à condition qu'ils investissent sur le continent américain. Nous n'avons pas été, nous, Européens, capables de le faire. Nous avons perdu tout le hard, comme on dit, c'est-à-dire les industries digitales. Il n'y en a plus sur le sol européen, pratiquement. Les derniers Nokia sont partis dans des mains extra-européennes. Et c'est une raison de plus pour défendre avec beaucoup plus de sévérité ce que j'appelle les activités de contenu. Ces tuyaux ne voudront rien s'ils n'ont rien à mettre dedans. C'est une force pour nous. Ces tuyaux doivent accepter des règles pour commercer sur notre continent. C'est une deuxième chose que nous devons essayer d'imposer. La bataille est terrible parce que nous sommes, nous aussi Européens, traversés par des courants de pensée dont certains estiment que finalement la liberté d'accès au robinet devrait se traduire par la liberté d'accès au contenu. Rien ne vaut rien, si ce n'est le tuyau. Naturellement, c'est tout à fait, non seulement inacceptable, mais peut-être même aurons-nous, mes collègues et moi-même, à vous demander de vous mobiliser en tant qu'auteur, en tant qu'éditeur, dans des formes de présence qui pourraient ne pas être que sympathiques, parce qu'il faudrait bien que le législateur comprenne que c'est dans cette affaire-là, la loi qu'il doit faire est plus importante que les passions momentané qui s'exerce dans ce Parlement, et qu'il s'agit en fait de la survie de quelque chose qui est hautement politique, ce sur quoi je vais terminer mon intervention. Qu'est-ce que c'est que la culture? Il y a deux façons de le présenter. Il y a d'abord la façon qui aujourd'hui probablement terrasserait un peu mieux le dragon qui rôde autour de ceux qui veulent défendre la propriété des artistes, auteurs sous toutes leurs formes, et qui consiste à rappeler qu'en Europe, l'activité culturelle est un des moteurs de l'économie européenne. Je n'ai pas encore les chiffres globaux et vérifiés de l'ensemble du continent européen, mais j'ai déjà, depuis longtemps d'ailleurs, ce qui concerne la France. Et on sait aujourd'hui que la création artistique en France pèse plus lourd que l'industrie automobile en chiffre d'affaires, en haut de bilan et en emploi. Bien plus que l'industrie automobile. Donc, ne nous sentons pas honteux ou dans un système de demande, nous n'avons rien à revendiquer si ce n'est une existence puissante dans tous les sens du terme, y compris et d'abord économique. La deuxième chose que je voudrais vous dire, elle est plus pointue, elle est naturellement plus nuancée, mais elle est assez simple à comprendre. Nous avons les systèmes politiques de nos cultures et non pas l'inverse. Nous ne sommes pas des héritiers culturels de nos systèmes politiques. Nous sommes des héritiers politiques de nos systèmes culturels. Ce qui gouverne les peuples vient de ce qui leur fut enseigné. Et je voudrais que dans cette maison, nous puissions être beaucoup d'alliés, quelles que soient les formations politiques auxquelles ils appartiennent, quels que soient les pays qu'ils représentent, et ceci n'est pas gagné d'avance, notamment avec les pays nordiques, puissent accepter cette idée assez simple qu'on ne peut pas d'un côté défendre la charte des droits fondamentaux et de l'autre côté piétiner le droit d'auteur avec tout ce qu'il a produit jusqu'à présent. Et ce que je veux terminer, ce par quoi je voudrais terminer, c'est de dire la chose suivante. Il me semble aujourd'hui qu'il ne peut y avoir d'activité culturelle sans une économie de la culture. Et que l'essentiel de l'économie de la culture, elle est basée sur le droit d'auteur. Tout en découle. Tout se calque sur cette affaire. Et quels que soient les supports, je ne veux pas magnifier les supports contemporains, ça n'est jamais que des tuyaux, ça n'est jamais que des machines avec des algorithmes, ça n'est jamais au fond tout ça, que, comme la télévision, comme le reste, de l'électricité colorée ou numérisée, tout simplement. Ce qui est très important, c'est ce qui se véhicule dedans. Mais je voudrais aussi me permettre, en le disant, un petit reproche. On ne vous voit pas suffisamment dans les instances de débat politique, vous les principaux acteurs de cette affaire. Je parle d'auteurs et d'éditeurs. Bien sûr, il y a là une heureuse habitude qui vient d'être prise, mais nous sommes très seuls, nous les parlementaires qui nous battons sur ces sujets à bien des égards, et je vous prie donc de défendre comme nous essayons de le faire pour vous, ce qui est après tout le fondement de vos professions et pour lesquelles nous vous devons tant. La bataille sera sévère, nous avons besoin que vous soyez vraiment à nos côtés, et c'est vraiment ça que je voulais vous dire ce soir. Je ne suis qu'un des primus inter pares parmi mes collègues, ils le diront aussi bien et sans doute même mieux à bien des égards que moi, mais sachez quand même qu'il y a ici un épicentre de gens qui ne veulent pas se laisser faire sur ce sujet à condition qu'ils soient extrêmement bien aidés. L'amendement de demain est un amendement qui, en gros, entame la bataille avec Google. J'attire, puisque vous m'amenez sur ce sujet de l'amendement de demain, le fait que je ne céderai rien sur l'amendement numéro 84 qui met au centre de cette affaire, en effet, la pérennité du droit d'auteur, et pour lequel vous m'avez aidé, et je vous en remercie infiniment. Je voudrais terminer cette chose par une phrase très jolie que j'ai apprise ce soir, qui est dans la bouche de Madame Vacher, je crois, l'éditrice de Monsieur Ferrari. Et d'abord dire une chose, et ce sera les deux dernières phrases qui concernent ce qu'on attendait de moi. Quand j'ai lu la première fois votre sermon sur la chute de Rome, j'ai aussitôt instinctivement pensé à un livre merveilleux qu'une dame qui m'a honoré de son amitié, qui était Madame Jacqueline de Romilly, avait écrit sur le siècle de Périclès, pour décrire les turpitudes contemporaines, les voyous qui peuplaient la politique et Dieu sait quoi. Et puis là-dessus, je suis tombé sur votre sermon, et j'étais tellement ébloui, d'autant plus qu'il est fracassant. Il est très court. C'est pas les 980 pages de Thomas Piketty. Hein. C'est vraiment radical. Je l'ai lu dans la foulée. J'étais en vacances, je vous l'ai dit tout à l'heure, deux fois, pour être sûr d'avoir bien compris toute l'insolence forte que vous aviez pour décrire la chute, le déclin en tout cas, dans lequel nous pensons que bien des actions humaines politique ou autre ou économique entraîne notre continent. Et en vous lisant, je me disais que vous feriez merveille dès que vous seriez traduit, parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est que l'Europe? Le fou, comme aurait dit le sage chinois, montre l'Europe comme un élément, un patchwork diversifié, éclaté, mais c'est une folie que de s'arrêter à cela. L'Europe est très riche, 28 fois, de choses qui sont assez différentes et même parfois très différentes. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il n'y en a pas un parmi nous qui, dans ses références culturelles, qui dans, je dirais, son paysage dans lequel il puise ses pensées, ses sentiments, il n'y en a pas un d'entre nous qui n'est un auteur venu d'ailleurs, un musicien venu d'ailleurs, un écrivain venu d'ailleurs, un architecte venu d'ailleurs, bref, des artistes de création qui ont tous complété notre patrimoine, même national, et ils venaient de partout. Et c'est là-dessus qu'on doit construire vraiment une industrie. Je n'ai pas peur du mot, des contenus qui tiennent la dragée haute à l'industrie des acheminements que j'appelle moi des tuyaux. Madame Vacher a dit une chose formidable lorsqu'on a préparé ce travail que mon assistante ne me pardonnera pas de ne pas avoir reflété en entier. Elle a dit, quand j'ai lu un livre, il n'y a même plus de question, je dois l'éditer. Chapeau, parce que si j'étais un auteur, vraiment je serais comblé d'entendre et de voir une chose pareille, et la raison de laquelle vous travaillez, sans discriminer les autres, m'a toujours ébloui par son audace. Je tiens à vous le dire, vous répéterez ça aux actuels propriétaires, ça ne changera pas nos rapports de toute façon. Je vous souhaite une bonne soirée, vous n'oublierez pas qu'à un moment ou un autre, nous aurons besoin que vous vous manifestiez à nos côtés de façon extrêmement visible pour tous les récalcitrants et les aveugles qui peuplent ce Parlement, il n'en manque pas. Merci.
Merci, cher Jean-Marie. Nous serons là au rendez-vous, nous les éditeurs, avec nos auteurs. Alors Marie-Catherine et Jérôme, c'est l'heure, c'est le moment d'y aller. Faites comme si on n'était pas là, parlez-vous et faites-nous rêver.
Et merci d'être là. Il va nous lancer une première question, parce que là, sinon... on va.
Il était prévu qu'on nous lance une première question, effectivement.
Il faut nous lancer, hein.
La première fois, c'est Jérôme qui a envoyé son manuscrit et vous qui êtes allé le chercher.
C'est Jérôme qui a envoyé son manuscrit par l'intermédiaire de ce que j'aime bien appeler la société secrète, la communauté souterraine des auteurs qui font circuler les textes les uns après les autres. C'est par Pierrette Flotiot que le livre est arrivé, lui-même étant arrivé par une autre jeune écrivain, Carole Zellberg, qui connaissait Pierrette Flotiot. J'aime ces histoires-là, très simples. On va pas les chercher, ça circule, c'est pas du piston, ça peut être refusé, mais les livres, les œuvres circulent de cette manière un peu anarchique et sauvage, surprenante. Et c'est quand même ça le but du jeu, c'est d'être surpris dans ce métier par l'œuvre d'un artiste, pas seulement d'un auteur. Un écrivain, c'est un artiste.
En fait, j'avais le manuscrit que j'ai envoyé à Marie-Catherine, c'était en février 2006, et c'était le troisième manuscrit que j'écrivais. J'ai la chance, dans le métier d'écrivain, d'être vraiment passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et du coup, moi, mes deux premiers romans, un recueil de nouvelles et un roman, ont d'abord été publiés en Corse par une maison d'édition régionale. Et n'y connaissant rien à l'édition, j'ai mis quelques mois à me rendre compte que publier et imprimer étaient deux métiers entièrement différents. Et qu'en fait, on pouvait avoir un livre qui était imprimé avec une jolie couverture et qui n'avait aucune existence parce qu'il n'avait aucune chance d'arriver en librairie. Si je me rappelle bien, on trouvait mon livre à Ajaccio. Mais déjà, à partir de Corté, c'était compliqué. Quand on était dans le Nord et à Bastia, ils n'avaient jamais entendu parler de rien d'autre.
C'est l'Europe.
Quand j'ai écrit mon troisième roman, je me suis dit, voilà, je vais l'envoyer à un éditeur national et j'espère avoir le courage, si mon texte n'est pas retenu, de le laisser dans mon ordinateur. Et j'avais une amie qui connaissait Pierre Espletot, je lui ai demandé un nom. Je savais que c'était très difficile de faire lire un manuscrit, je lui ai demandé, donne-moi un nom. Et je l'ai envoyé à Marie-Catherine en février 2006, elle a dû me répondre en mars 2006 et depuis, on a publié cinq livres ensemble. Et nous ne sommes plus quittés. Et mon livre arrive à être à la fois à Ajaccio et à Bastia, ce qui est extraordinaire.
Après, j'ai envie d'éditer le texte que va nous raconter Jérôme. Je vais quand même le laisser plutôt lui raconter dans un premier temps quelle est son expérience de se retrouver dans la maison Actes Sud. Je vais quand même pas moi faire la promotion de la maison Actes Sud avec toute la conviction qui pourrait m'animer, mais est-ce que en tant qu'expérience d'arriver dans cette maison, parce qu'on n'est pas seul, ce que disait Jean-Marie Cavada tout à l'heure, cette idée qu'il faut avoir les conditions de production, c'est au niveau effectivement de la loi, c'est au niveau de notre travail au Parlement, c'est aussi au niveau d'une maison d'édition où une personne comme moi, qui est éditeur, se voit aussi donner tous les moyens d'accompagner un auteur sur la longue durée. Et je ne ferai pas offense à Jérôme en rappelant que dans les premiers temps de notre collaboration, les deux premiers livres que nous avions publiés avec conviction ensemble n'ont pas rencontré immédiatement l'adhésion d'un vaste public.
Je crois qu'on est à une époque où essayer de parler de ce qui n'est pas immédiatement quantifiable devient compliqué. Donc du coup, pour réussir à le faire, autant rester au niveau le plus proche du concret possible, et tant qu'à faire, s'appuyer sur des éléments quantifiables que je peux exposer sans honte, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment passé avec une chance inouïe dans mon parcours de romancier par beaucoup d'étapes que ne connaissent pas tous les romanciers. J'ai publié 5 romans chez Actes Sud. D'abord, en ce qui concerne la relation entre l'éditeur et l'auteur, qui là pour le coup est du domaine du purement non quantifiable, j'avais arrêté d'écrire depuis 3 ans, et quand je suis arrivé à Actes Sud, j'ai écrit quasiment un roman par an, ce qui inquiétait un peu la maison en termes de publication. Donc j'ai publié 5 romans chez Actes Sud. Les deux premiers ont été publiés, ont été vendus, je pense, à 1400 exemplaires. Donc le premier avait eu un accueil critique assez considérable, parce que j'avais eu 2 articles.
Oui.
Quant au deuxième, il avait eu un accueil critique comme une plaie ouverte dans mon existence, avec un nombre d'articles critiques que je me rappelle très bien, parce que c'était 0. Il avait eu 0. Après, mon troisième roman s'est mieux vendu, il est monté à 7-8 000, mon quatrième chez Actes Sud à 32 000, et puis après j'ai eu le prix Roncourt. Et cette litanie de chiffres est rigoureusement dépourvue d'intérêt, à ceci près qu'elle a été pour moi un critère de ce que je vivais avec les gens avec lesquels je travaillais. À la fin de quand j'ai publié mon deuxième roman chez Actes Sud et qu'on a vu qu'il se vendait très très mal, j'ai appelé Marie-Catherine ici présente, en prenant un ton à la fois désolé et contrit, en lui disant « je comprends très bien que ce n'est pas la peine que je vous envoie un manuscrit de plus ». Et elle m'a répondu, vous êtes vraiment idiot, vous occupez-vous d'écrire des choses et pas de ce que vous vendez. Évidemment, en ce qui me concerne, maintenant je trouve qu'avoir eu la chance de rien vendre et donc d'être une catastrophe en termes d'investissement hein, pour une maison d'édition, et de savoir qu'on avait quand même sur cette relation-là, qui était, ça pour moi clarifié l'ensemble de nos rapports après. Et du coup, je sais que si on a été gentil avec moi quand j'ai commencé à en vendre beaucoup, c'était juste la suite logique d'une relation qui avait commencé où on était gentil avec moi quand je n'en vendais pas du tout. Et c'était très important. Et je ne doute pas que sans cette attention-là, j'aurais été trop déprimé pour écrire les titres qui ont finalement fini par se vendre.
C'est compliqué cette histoire parce qu'on n'est pas là non plus pour se lancer des fleurs et faire un exercice d'admiration mutuelle, mais en même temps, ce que disait Jérôme à propos de la confiance qu'on lui a faite, les fondements, enfin les fondations de cette confiance sont extrêmement simples, et le problème pour un éditeur, c'est pas de découvrir, c'est de durer, d'avoir le temps, de donner le temps au temps, de faire en sorte qu'on puisse prolonger cette confiance justement en deçà et au-delà du quantifiable. Mais qu'est-ce qui a fait dans notre cas, enfin dans le cas que nous représentons ici, c'est que jamais il n'a été mis en doute, il n'a fait aucun doute que nous avions en la présence de Jérôme Ferrari un très grand écrivain. Et si effectivement, et qu'est-ce que c'est un très grand écrivain? C'est personne d'abord, il n'a pas forcément de nom, mais c'est quelqu'un dont l'œuvre, dont même dans ses commencements, s'impose avec une sorte d'autorité souveraine et dont malheureusement, effectivement, il faut après tenir compte du temps que nous avons, le devenir des choses n'est pas exactement équivalent toujours à notre enthousiasme. Il faut rendre l'enthousiasme effectif, comment dirais-je, le rentabiliser en quelque sorte sous la forme d'une forme de succès. Mais la base de la relation, c'est la confiance dans la vertu littéraire extrême de l'auteur et de son texte. C'est cette Je compare souvent notre métier à celui d'un galeriste en termes de peinture, où nous choisirions un jeune artiste et nous déciderions de l'exposer. Et ça, nous sommes dans un monde de reproductibilité avec le livre, mais nous sommes dans le même engagement par rapport à ce que nous, par rapport à la source de notre travail initial. Voilà.
Je voudrais ajouter que moi, tel que j'ai vécu ce qui s'est passé avec Actes Sud et avec Marie-Catherine, la question n'est pas du tout celle d'une reconnaissance où on vous dit vous êtes un grand écrivain, vous ne vendez pas, mais ça viendra. Ça n'a vraiment rien à voir avec ça. La question est beaucoup plus simple. C'est, tu es un éditeur, c'est-à-dire que quel que soit le nombre d'exemplaires que tu vends, tu peux publier. Et ça n'a rien à voir, parce que c'était vraiment pas le cas, hein, avec une espèce de renvoi d'image qui comble une espèce de tendance au narcissisme qu'on aurait, et c'est pas ça du tout le problème. Le problème, c'est le fait de la confiance, c'est de savoir, voilà, j'ai pas à m'inquiéter de la puissance commerciale de ce que je fais. Et du coup, franchement, j'ai vécu tous ces échecs commerciaux comme des petits ennuis. Après, je me disais quand même, t'as de la chance, tu vas pouvoir proposer ton autre texte sans te poser ce genre, sans te poser ce genre de questions. Et donc, j'espère être choisi avec des critères qui sont précisément pas des critères commerciaux. Personne ne crache sur les critères commerciaux, et spécialement pas les éditeurs, évidemment. C'est pas, et les auteurs non plus. Hein. Mais c'est comme quelque chose qui vient en plus. Et finalement, qui ne vient que parce que, en amont, on est dans une ambiance où il est possible d'écrire sans se poser ces questions-là. Pouvoir écrire sans se poser ces questions-là, ça c'est vraiment le luxe.
C'est ça le droit d'auteur. C'est pouvoir, c'est en liaison avec la problématique du droit d'auteur, parce que finalement, cette question du contrat qu'on passe avec l'éditeur, c'est justement cette face, enfin c'est la manière la plus saine qu'on ait les uns et les autres de travailler ensemble aussi. Il y a pas de ce contrat qu'on passe, c'est un contrat de droit d'auteur, mais c'est un contrat moral aussi également. Il y a une base fondamentale qui fait que il y a pas d'arnaque dans ce travail-là. Il y a pas de mensonge. Dans le meilleur des cas, on est de toute façon finalement comptables les uns vis-à-vis des autres, soit de notre croyance, soit du texte que l'on propose. Enfin, il y a une sorte de réciprocité, et je dirais qu'il fait suite à l'estime mutuelle qu'on peut
aussi supporter dans la relation. Ouais. La fin de ce que voulait dire Marie-Catherine, que j'ai parfaitement entendu moi-même. Après, le contrat est compliqué. C'est un contrat commercial, entre l'éditeur et l'auteur, entre la maison d'édition et l'auteur. C'est un contrat commercial qui ne peut marcher que parce qu'il dépasse les usages commerciaux. Et j'ai assez l'habitude de ce genre de contrat, moi, parce que je suis professeur, et que la relation d'enseignement est tout aussi irréductible à un type de rapport dans lequel on pourrait l'enfermer. Voilà, un élève, il a droit à ce qu'il ait un cours tous les jours, sans trop d'absentéisme, et chacun sait bien que la relation d'enseignement excède largement ses obligations contractuelles. Bon, mais je vois vraiment très très fort le rapport avec l'éditeur. Et j'ai toujours pris soin, en ce qui me concerne, beaucoup de facilité chez Actes Sud, que les questions qui sont d'ordre contractuel économique ne prennent pas le pas sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire le rapport humain.
Merci Marie-Catherine et Jérôme. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ont des questions à poser.
Moi j'en ai une pour commencer, parce que vous nous avez expliqué cette relation, comment naît un premier livre et une œuvre, est venu s'intercaler un prix Goncourt. Un prix Goncourt, c'est des centaines de milliers de livres, d'exemplaires vendus. Ça crée une relation particulière avec la maison d'édition. Est-ce que ça change quelque chose dans la relation entre l'auteur et son éditeur, au-delà de ce que Jérôme vient de dire.
Donc j'aurais, pour moi, Catherine, pour moi ça n'a rien. Mais
Non plus. Et justement, le prochain livre de Jérôme sera publié au mois de mars. Et nous avons eu la joie de nous apercevoir que nous étions dans un rapport au texte et à la publication qui n'avait pas du tout été altéré ou aliéné par un événement aussi prédateur malgré tout sur un plan symbolique. Donc c'est aussi du travail, hein, ça, de rester dans cette enfance, enfin dans cette, non pas innocence, mais dans cet aspect un peu primordial de la relation. Il faut non pas s'y efforcer, mais s'y tenir.
Et je pense qu'on s'y tient d'autant plus facilement que c'était pas, je sais pas si c'était arrivé avec mon premier ou mon deuxième roman, ça aurait été sans doute moins facile, mais je me suis posé la question. J'ai eu toutes les réponses que je voulais, mais je me suis posé la question. Ma crainte était que, au prétexte du prix, je puisse me mettre à produire n'importe quel texte et que tout le monde trouve que c'était génial. Et bon, ben voilà, c'est pas le cas, c'est très bien.
En fait, je voulais savoir comment se passe le premier coup, puisqu'on a entendu le coup de foudre réciproque, mais est-ce que pour un premier roman, est-ce qu'on touche une somme d'argent même avant que le roman soit publié? Voilà.
Alors, c'était pas un coup de foudre réciproque, c'était. Moi, je préfère les histoires longues au coup de foudre, hein. C'est une question de tropisme, mais je me méfie beaucoup du coup de foudre. Et donc je vais répondre à votre question en précisant bien que je ne parle que à partir de mon expérience personnelle, qui est celle d'un unique éditeur en France, qui est Actes Sud, et que je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, quoique ça me semble à peu près cohérent. En fait, quand on rend le manuscrit, on nous donne un avaloir. L'avaloir est une avance sur droit d'auteur qui ne peut pas être amputée si moins de livres se vendent. Et si donc les droits d'auteur réels ne couvrent pas l'argent qui a été avancé. Autrement dit, c'est une prise de risque de l'éditeur. Après, les choses évoluent, et donc j'ai eu un avaloir à chaque contrat. Et alors, les questions d'argent sont aussi des questions affectives, et dans un sens, et c'est vrai que moi, constater que je ne vends rien, et qu'à mon deuxième roman, on me propose exactement le même avaloir que pour le premier, c'est quelque chose qui m'a touché. J'essaie bien de comprendre que c'est pas une question d'argent, mais ça signifie, voilà, cet argent est à fond perdu, si on vend moins. Donc c'est quelque chose qui est encore très limite et très frontalier, mais c'est comme ça que ça se passe, normalement.
Oui, c'est une marque de confiance, et c'est le cadre. Et c'est pour ça que je trouve que même si la valeur d'un premier roman n'est pas très considérable, il met à distance la mauvaise partie de l'affectif, et il pose les choses de sorte clairement, de manière qu'on soit aussi dans une relation saine. Et l'argent, on sait très bien ce que ça veut dire. Ça peut être la pire des choses, mais c'est aussi un symbole. On sait très bien ce que ça signifie en psychanalyse ou partout. Voilà. Donc, c'est ça qui est important, cette clarification. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres qui... Non ?
Alors, nous allons poursuivre ces dialogues. Nous allons changer de langue. Dans l'Union européenne, il y a 28 pays, il y a 26 langues différentes. On a entendu le français, on va maintenant entendre l'anglais. Et je voudrais inviter donc Madame Mary Honeyball, qui nous invite ce soir. C'est elle qui nous a permis d'avoir cette belle salle pour vous recevoir tous, membres du Parlement, éditeurs, auteurs ou institutionnels, amis. Et donc je voulais vraiment vous remercier de nous accueillir. Vous êtes membre britannique du Parlement européen et vous avez la lourde tâche ou le grand bonheur de nous présenter Jonathan Coe et son éditrice Joanna Pryor. Merci.
And thank you so much for the Federation of European Publishers for inviting me to introduce our two amazing guests from the UK, who I'm sure you will have a very interesting and lively discussion with. Before I introduce them, I'd like to say that I'm very proud to have the two of them here, and I'm very proud also to be here, but I also want to echo what Jean-Marie Cavada said about copyright. It is so important that when we in the European Parliament come to discuss and legislate on copyright, that we do actually do the right thing by all of you. Because copyright, as you don't need me to tell you, copyright is what allows you all to make your living. And I think it's important that we actually come up with copyright laws and protection of intellectual property that guarantees the living of authors and creators in general. And that certainly, I know from my perspective and those of my colleagues, is what we will be doing. We will be making sure that you still can make your living and that all of us, the people who read and enjoy your books, continue to do that, because the content and what you do will be protected. And that has to be our guiding principle in how we tackle this very difficult subject. So I'm terribly pleased, and it gives me the utmost pleasure, to introduce to you our two guests from the United Kingdom. First of all, we have Jonathan Coe, who is an award-winning writer, who has written novels and a television series, and also has taken part in events with music. Jonathan really came to be quite famous in the UK for What a Carve-Up, which was a book and later a television programme, which reworks the plot of an old 1960s spoof horror film of the same name. But the carve-up was actually of the UK's resources, and it was carried out by a right-wing Conservative government in the 1980s. So for those of us involved in politics, it was interesting and a thing which we all enjoyed very much. But Jonathan actually published his first novel, The Accidental Woman, in 1987. And for the novel What a Carve-Up, he won several prizes, and throughout his career, Jonathan has won prizes. In What a Carve-Up won the John Llewellyn Rees Prize, the Prix de Meilleur Livre Étranger in France, and was followed by The House of Sleep, which won the Writers Guild of Great Britain Best Novel Award, and in France, the Prix Médicis. And Jonathan has, in fact, in total, published 9 novels. He's also written a biography of the experimental British novelist B.S. Johnson, which is called Like a Fiery Elephant, and that won the Samuel Johnson Prize in 2005. And Penguin, which I will talk to you more about in a minute, published his collected shorter prose, which, believe it or not, took only 55 pages. And he's also written children's fiction, including adaptation of the famous Gulliver's Travels. And Jonathan Coe was a judge, in fact, of the Man Booker Prize in 1996, and has been a jury member at the Venice Film Festival as well, and also at the Edinburgh Film Festival. So a very long and distinguished career in writing and judging, and indeed in winning prizes. So we're very pleased indeed that Jonathan has come here to join us and talk to you and hopefully answer the questions that you will be asking of him. Our second guest from the United Kingdom is Joanna Pryor, who is Managing Director of Penguin General. And I'm sure all of you absolutely know about Penguin. And it's a totally iconic British publishing brand, which is known throughout the world and has this amazing logo, which is in fact Penguin. And was founded in 1935 and has just gone from strength to strength since then, and has recently formed, in addition with Random House, Penguin Random House Publishing Conglomerate, which is a huge and important publishing house, not only in the UK, but throughout the world, really, certainly the English-speaking world, and in other countries, obviously, where books are translated. Joanna has actually been at Penguin for over 15 years, and before that, with the exception of brief spells editor at Sunday Telegraph magazine, has worked in publishing, and she began her career, in fact, as a book publicist at Heinlein. So a long career with a huge amount of experience. And I'm very pleased also to say that Joanna is very interested in female authors and women readers in general, and has been part of the Read Women 2014 campaign. And she has said in a recent interview that she's very motivated to ensure that women writers receive the same opportunities and rewards as men. And she is in fact on the board of the Bogus Women's Prize. When you talk to Joanna about what she thinks are her greatest achievements, of course, apart from women's fiction and putting women and women readers on the map, she lists getting John le Carré's most recent book, A Delicate Truth, to number one in the publishing charts, as it were, Claire Tomlin's remarkable biography of Charles Dickens, making that the centre of the Dickens centenary celebration, and making sure that Zadie Smith, a more contemporary and interesting British author, winning several multiple prizes. So I'm very pleased indeed to introduce to you Jonathan Coe and Joanna Prime.
Thank you very much. Thank you for that nice introduction, Mary. Jonathan, I'm going to go straight in with a question very similar to the question that Jerome was asked, which is really to ask you to describe to everybody here what it is that Penguin does for you. We've been fortunate enough to be your publisher for all your novels, and we're hugely proud of that. But I'd love you to talk in your own words about really what this relationship entails.
Thank you. Okay. Well, it's been a great education for me already coming here to Strasbourg and talking among the MEPs and the various people representing different publishers' organisations. I've discovered since I've been here that there are some people who think that authors can survive without publishers, and that authors don't need to have their intellectual property protected, and that they don't need to be remunerated for their work. And this. It's always nice to encounter radical new ideas, but I have to say this one is really coming from pretty left field as far as I'm concerned. I've been published by Penguin, as you say, for about 20 years now. And what do they provide? Well, I write the book, obviously, a process which takes between 3 or 4 years in my case. What do I live on while I'm doing that? Well, Penguin pay me in advance, which then hopefully, in theory, is recouped through royalties. Penguin then edits the book, makes it better than it was before, takes out the errors and inconsistencies, normally. They design a cover, they plan a marketing campaign, they introduce it to the media, they introduce it to the public, they organize publicity tours. Basically, they publish the book. What more needs to be said, really? And this idea that authors can self-publish seems kind of a bit of a nonsense to me, and a bit of a contradiction in terms. I mean, authors who upload their work to platforms like Amazon or Google or whatever, I can understand the appeal of that and the need to do that, because there's nothing more frustrating than writing something and then feeling that it's never going to reach any audience at all. But what we're talking about is not publishing, it's just uploading. Anybody can do that. I could do that if I wanted to, and I could take 100% of the whatever royalty that accrued, but I know that it would not be as much as I would get from having a book published by a serious traditional, what people are now starting to call heritage publisher, rather an alarming phrase, who, you know, publishes the book properly.
Well, thank you for saying that, because obviously that's what's keeping Penguin going, is that belief that all the skills required to do those multiple jobs are indeed of value to you. I think the uploading is indeed a job, and when I'm asked to describe what it is a publisher does, I say it's really just one thing. It's taking the work of a writer and an author and connecting that work with the reader. And putting the reader and the writer together is a job that involves an awful lot of different tasks, I think. And it's become, in fact, a more sort of complex role, I think, as the different platforms have emerged and different ways of reading have emerged. And I suppose time was that you could print a book and tell a local bookseller about it. He would display the book, a customer would walk through his door, and a conversation would ensue, and a sale might be made. I think now, the way in which people choose to consume books, find out how they find out about books, and the way in which they want to read it and in what form they want to read it has become much more varied, and therefore we have to become a lot more skillful at making the connection between the writer and his reader. So I think what these many jobs are doing, whether it is the creative work that happens in an art department to make a jacket really fabulous and really stand out as a physical book, but also a jacket that will work the size of a postage stamp on the Amazon page when you're going to click on it, or whether it's quite a technical job around metadata, which is a word that's become a very familiar word to publishers now, making sure there are key words. So Jonathan Coe, funny, Jonathan Coe, political, Jonathan Coe, prizing. These are key words that will help people to find Jonathan online. There is an expertise attached to all of that that I think we as publishers are providing now. And these are new skills that we've had to learn in the digital age. I think, though, the very, very fundamental part of what we do as publishers does remain the same, whatever the platform, and that is the relationship between us and you. And particularly at the very beginning of the process, Jerome talked about this a bit, about the relationship when the manuscript comes in and the work that gets done at the very beginning of the process, and that happens behind closed doors, and I think there's quite a lot of mystique about that. But perhaps you could talk a little bit about the relationship that you've had with your very long-term editor at Penguin, Tony Lacey, who's edited all your books, and in fact is retiring next year. Could you perhaps speak a little bit about the value that he brings to you?
Yes, the editor occupies a unique role within the publishing house, really. I mean, what writers do and what publishers do is related. Obviously, there's a symbiotic relationship. The one can't exist without the other, but they're fundamentally completely different activities. But there is the editor, who is a kind of intermediary, who provides a kind of bridge between these two worlds. His or her concern is not entirely commercial, although of course they have to keep an eye on the fact that the book will have to survive in the marketplace. And if they're dealing with a book where that is going to be difficult, then you know certain considerations have to come into play. But at the same time, they have a creative sense. They have a kind of expertise which has been built up over years of reading and thinking about literature, engaging with literature. And this is a kind of expertise which, you know, which cannot be monetized. You can't really put a price on this. And you know, without that, if the editorial role in big publishing houses, big corporate publishing houses like Penguin, or Penguin Random House as it now is, if that editorial expertise starts to get marginalized, starts to get devalued, starts to kind of lose its place in the ecosystem among the marketing departments and the sales departments, then we have a problem. But as far as I can see, although the pressures of the free market are becoming ever more intense, that's not happening yet. I mean, I did use the word corporation when I was talking about Penguin, and Penguin is a big organization. Joanna was not entirely accurate when she said that all my books have been published by Penguin. In fact, my first two books were published by a small independent house. And I have to say that I've been better looked after, and I've had closer and more fulfilling personal relationships with personnel within this so-called corporation than I did within a small publisher. So, you know, it's not always the case that small is good. There are good and attentive small publishers, and there are kind of big and ruthless corporations, but there are also, I think, benign corporations. That is not a complete contradiction in terms to me.
I think the other thing, perhaps, to talk about is money. You mentioned that we pay you in advance, and that is a big part, I guess, of what traditional publishing does versus self-publishing, is we do make an investment. We take a risk. We pay up front for a piece of work. Maybe not a word is written, maybe there's an idea, maybe there isn't even that. Sometimes there is a full manuscript, but that's rare with fiction. How important is it to you, Jonathan, that we take that leap of faith with you, and indeed lots of your other publishers around the world do the same thing, that they, as it were, invest in you before the work is done?
Well, it's hugely important, and Penguin takes the biggest risk, in fact, because the way it usually works with me is that I'll show Penguin a portion of the book, my work in progress. In the case of The Rotters Club, Bienvenue au Club, it was about a quarter of the book. In the case of The House of Sleep, La Maison du Sommeil, it was less than that, it was about a tenth of the book. And someone at Penguin, in the first case, my editor will make a judgment on that book and will advance me some money against it. Now, my other publishers, Gallimard, Feltrinelli, Anagramma, Busy Bee, they don't pitch in my case, until the book is finished. So it's Penguin, really, who is making the speculation. But, I couldn't support myself and support my family for the 3 or 4 years it takes a book without that leap of faith. And it can't be emphasized strongly enough that creative people do not live on air. And if you take away the economic infrastructure which supports writers and which has supported writers historically for the last century or two, then content will disappear. There will be, you know, we will be vastly impoverished by that.
As people will see from the card on the tables, you are published all over the world, and particularly throughout Europe. How important is that to you, and what sort of relationship do you have with your different European publishers? Do you go and visit? Do you spend time promoting in these countries?
I spend as much time as I possibly can promoting my books in France and Italy rather than the UK, because the food is much better, the hospitality is much better, and this is basically why my books now sell more copies in France and Italy, because every time I get an invitation to go on a French or Italian tour, I go immediately. I remember I'd just done an event, a very wonderful event in a bookshop in Naples. We went for lunch afterwards. We were sitting on the waterfront, eating a fantastic pasta seafood dish, and the telephone rang, and it was someone from Penguin, Amelia Fenny, I think, from Penguin Publicity Department. She said, "We just had a request for you to go into a library event in Stockport, in the north of England. Are you interested?" And I kind of looked around at the environment I found myself in and said, "Well, actually, no offence to the people of Stockport, but no, I'm not interested in that at this particular moment. I'm in Naples, and that's where I'm going to stay." So that's my relationship with Europe. Really, it's very intimately connected with cuisine and alcohol.
Well, our time is nearly up, so I thought we would just finish by asking you something that I think your fans in the audience, and I know there are many, would love to know, which is what you're working on now. Your last novel, Expo 58, was set in Brussels and across Europe. So what's in store for your readers next?
I'm writing a novel set in the UK, contemporary novel, contemporary political novel. Begins in the year 2003 and it comes up to, goes slightly into the future actually, to 2016. I haven't written about British politics for a long time, partly I think because I've been struggling to find a way in. The mode I've been using over the last few years, which has basically been a kind of heightened sort of social realism, didn't really seem to work. I was looking for a genre really which would fit the current British political situation with the ascendancy of David Cameron and the rise of UKIP and that sort of thing. And finally, what I had to write was a horror novel. So that's what I'm doing. I'm writing. I'm moving on to Stephen King territory, basically, in order to convey to the rest of Europe the horrors of David Cameron and UKIP.
Maybe we have some questions.
Thank you.
Well, thank you very much.
Excusez-moi, je me permets de prendre le micro, alors je n'ai pas de questions pour nos amis anglais. C'est une petite intrusion dans cette soirée, des questions un peu urgentes. Je voulais m'adresser à tous les députés qui sont là ce soir. Demain, nous avons un vote sur une résolution sur les droits des consommateurs dans le marché unique numérique. Dans cette résolution, le paragraphe 13 aujourd'hui, dans sa rédaction telle qu'elle est proposée, ne fait mention que des droits des utilisateurs et des consommateurs, sans aucune considération pour les créateurs et tous ceux qui les soutiennent dans leur travail de création. C'est l'amendement qu'évoquait Jean-Marie Cavadel, il y a un amendement, c'est l'amendement 84 qui est déposé sur ce projet de résolution. Cet amendement réintroduit les droits la défense des propriétaires des droits. Il réintroduit la notion de la valeur de l'œuvre dans la chaîne de valeur de l'industrie culturelle. Et donc, je me permets cette interruption pour vous demander, vous encourager demain à voter cet amendement 84, donc numéro 84, sur la résolution sur le marché unique numérique. Merci à tous.
Je vais interrompre quelques instants votre dîner pour introduire le troisième duo de ce soir, qui est dans une troisième langue par rapport à ce que nous avons entendu jusqu'à présent, la langue allemande. Et je vais demander à Sabine Ferreyen, nous nous sommes rencontrés il y a quelques semaines pour travailler sur un thème qui touchait l'éducation, l'entreprise et la jeunesse. Ce sont des thèmes que l'on partage. Et Sabine, qui est députée du Parlement européen, allemande, va nous présenter Doris Grünbein et son éditeur Thomas Spahr. Sabine, c'est à vous.
Ja, zunächst einmal möchte ich Ihnen auch von ganzem Herzen ein herzliches Willkommen hier im Europäischen Parlament entgegenrufen. Und ja, ich hoffe, Sie haben bisher einen schönen Abend gehabt. Nicht, dass das jetzt schlechter wird, aber ich denke, dass sicherlich bisher sehr interessant war, die unterschiedlichen Aspekte zu sehen und zu hören. Und Sie brauchen jetzt von mir keine lange politische Rede mehr zu befürchten. Der Abend ist schon spät. Das meiste ist von den Kollegen gesagt. Erlauben Sie mir allerdings zu sagen, dass es mich freut, dass auch etliche Kollegen, die nicht im Kulturausschuss, also mit dem Thema Urheberrechte, mit dem Thema Autoren und Verleger schon seit längerem betraut und befasst sind, sondern auch einige Kollegen aus anderen Ausschüssen heute Abend hier sind, was ich besonders wichtig finde, denn ich glaube, dass wir die anstehende Reform im Copyright nicht nur im Kulturausschuss, nicht nur im Juryausschuss, nicht nur aus den Aspekten des ITRA-Ausschusses oder des Binnenmarktausschusses, sondern gemeinsam mit Lösungen, die vernünftige, auskömmliche Lösungen und einen balancierten Ausgang für alle hat. Und ich denke, das ist deshalb sehr wichtig, dass wir hier auch über die Ausschussgrenzen hinweg vernetzt an diesem Thema arbeiten, um den richtigen Weg auf Dauer zu finden. Und ich freue mich, dass Sie heute Abend alle hier sind und eine Debatte auch in dieser Richtung möglich wird, in Gesprächen am Tisch. Aber auch, dass es eine Gelegenheit gibt, Verständnis dafür zu bekommen, wie das Verhältnis zwischen Verlegern und den Autoren ist. Was es einen Unterschied macht, ob ich ein Buch bei Amazon verkaufe, ob ich ein Buch über Amazon verkaufe oder ob ich als Verlag eben in eine Vorleistung gehe, dass ich als Verlag Verantwortung auch für meine Autoren mit übernehme und umgekehrt auch der Autor ein Stück Sicherheit bei seinem Verlag finden kann. Und ich glaube, ein solches gespanntes Miteinander verbunden sein sind in einer ganz besonderen Art und Weise, präsentieren wir heute auch von deutscher Seite. Das ist zunächst einmal Durst Grünbein. Er wurde geboren 1962 und ist aufgewachsen in der ehemaligen DDR in Dresden. Und ich denke, gerade in diesem Jahr, 25 Jahre Mauerfall in Berlin, 25 Jahre Wiedervereinigung in Deutschland, da haben wir ein ganz besonderes Paar auch rausgesucht, weil Durst Grünbein eine sehr, sehr frühe Freiheitssehnsucht schon gepackt hat. Und er hat selber einmal gesagt, dass eines der wichtigsten Bücher, das ihn sehr früh prägte, ein Kinderbuch war, und das findet auch, dass es heute noch eines der schönsten Kinderbücher ist, nämlich die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen von Selma Lagerlöf. Und Sie werden sich sicherlich denken können, warum das für einen jungen Mann oder für einen Jungen, der in der DDR aufgewachsen ist, ein besonderes Buch war, denn er sagt selber, und ich zitiere jetzt, das war in tiefster DDR-Zeit vor allem eine Freiheitsfantasie, etwas, wodurch man auf die allercharmanteste Weise ins Unbekannte entführt wurde. Das fand ich immer faszinierend, durchbrennen und über dem ganzen Land schweben. Ich glaube, das ist etwas, was damals die Menschen auch ganz besonders bewegt hat, und ich kann mich selber an die Zeit erinnern. Wir saßen damals vor dem Fernseher und konnten einfach nicht glauben, was passiert war. Erst Erstaunung, Verwunderung, und ich glaube, das war auf beiden Seiten der Mauer ein solches Gefühl, was einen damals ereilte. Es war eine Hoffnung, ein Wunsch, den man über viele Jahre gepflegt hat, wo man daran gearbeitet hat, politisch. Aber dass es wirklich greifbar wurde, so schnell und so plötzlich. Und das wird auch in einem Gedicht von Durst Grünbein deutlich, dass er anlässlich des Novembers 1989 geschrieben hat, Novembertage. Ich werde es jetzt nicht vorlesen, weil ich maße mir das nicht an. Ich glaube, das könnte er selber deutlich besser. Aber es ist genau eben dieses Gefühl, dass durch einen Versprecher, durch ein falsches Protokoll, Wort im Protokoll, durch das, ich glaube, ab jetzt etwas bewegt wurde, womit niemand zu dem Zeitpunkt wirklich gerechnet hat. Und diese Welle, dieser Freiheitsdrang, der dort auch deutlich wurde, spiegelt sich eben auch wunderbar in seiner Poesie, in seinen Gedichten wieder. Und ich freue mich, ihn heute Abend hier begrüßen zu dürfen. Er ist, ja, wie er eben selber sagte, einer der Überläufer. Einer derer, deren Freiheitsdrang so groß war, dass sie nicht bis zum letzten Moment auch gewartet haben, sondern auch den Mut aufgebracht haben, was nicht immer ganz einfach war, sowohl Werke als auch sich selber auf die andere Seite zu bringen. Er ist 1988 mit dem Gedichtband Grauzone Morgens, der in Westdeutschland dann auch veröffentlicht wurde, im Surkamp Verlag, ja, nahezu hündisch gefeiert worden. Mit 43 Jahren wurde er mit dem Büchnerpreis bereits ausgezeichnet und er gehört den wichtigsten Akademien des Landes an. Der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung etwa oder der Akademie der Künste in Berlin. Und er ist seit 2008, und da sind die Franzosen, denke ich, vielleicht mit großen Ohren dabei, Mitglied des Ordens Pour le Mérite. Seine Gedichte wurden weltweit übersetzt, auch ins Chinesische, wobei bei dem Gedicht über die Novembertage wäre ich mir nicht sicher, ob die durch die Zensur gekommen wären. Ein glücklicher Zufall war wohl die frühe Verbindung zum Surkamp Verlag, und wie ich erfahren habe, wurde dies forciert durch die Begegnung mit Herrn Heiner Müller 1986 in Berlin und dessen Empfehlung an Siegfried Unseld, den damaligen Leiter des Surkamp Verlags, der einen Brief ans Kultusministerium der DDR schrieb und damit erwirkte, dass Durst Grünbein im Herbst 1988 mit einem befristeten Transitvisum zur Frankfurter Buchmesse reisen durfte, der Beginn von Grünbeins Aufstieg zu einem der wichtigsten jungen Poeten dieses Landes. Und auch dies ist wieder ein Zitat, nicht von mir, aber ich kann dies nur doppelt und dreifach unterstreichen. Ich freue mich, ihn heute Abend hier zu haben. Gespannt die Nummer 2 ist Thomas Spahr. Er ist Geschäftsführer des Surkamp Verlags und hat selber auch eine sehr bewegte Geschichte, denn er war nicht immer hier auf deutschem Boden tätig, sondern er lehrte an der Universität Hamburg und an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Von 1990 bis 1998 leitete er den jüdischen Verlag und war anschließend Cheflektor des Siedler Verlags und ist seit 2006 stellvertretender verlegerischer Leiter und Geschäftsführer des Surkamp Verlags. Der Surkamp Verlag hat mich übrigens persönlich auch viele Jahre begleitet. Ich glaube, es gibt keinen Schüler in einem deutschen Gymnasium, der nicht Bücher aus diesem Verlag lesen durfte, musste. Das hängt immer davon ab, wie viel Liebe man zum Lesen hat. Aber der vor allem auf die wunderbaren Kommentare dieses Verlags zurückgegriffen hat, wenn es um Klausuren ging. Ich bedanke mich also hier an dieser Stelle nochmal beim Surkamp Verlag für die Bereicherung, die ich auch erfahren durfte als Schülerin und damals vielleicht mit dem Wort noch nicht ganz so gewandt. Ich freue mich, Sie heute hier begrüßen zu dürfen, gerade als Stellvertreter eines Verlages, dem es nicht darum geht, nur ein Buch zu verkaufen, sondern dem es vor allem um die Beziehung zwischen Autor und Verlag geht. Die persönliche Beziehung, die sehr wichtig ist, deren Vertrauen aufbaut und die künstlerische Schaffen es möglich macht. Heißen Sie Thomas Spahr mit mir willkommen. Ich freue mich auf den Dialog zwischen diesen beiden Herren. Vielen Dank.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Peter Surkamp, immer von der turmhohen Achtung des Verlagsmenschen vor dem Autor gesprochen. Das hat mich immer sehr beschäftigt, was das eigentlich heißt. Und ich habe das in den Jahren der Zusammenarbeit mit Siegfried Unseld eigentlich auch so erfahren. Lieber Durst, vielleicht mögen Sie uns etwas berichten über Ihre erste Reise zum Surkamp Verlag nach Frankfurt im Oktober 1988. Da kenne ich nur das Bild, wie Sie auf der Versammlung vor den Kritikern gelesen haben. Und wenn ich es recht verstanden habe, war das Ihre erste Reise in den Westen und ins westliche Deutschland überhaupt. Mögen Sie uns darüber etwas berichten, was das für Sie bedeutet?
Also turmhohe Achtung des Verlegers vor dem Autor. Das ist wirklich ein berühmtes Wort von Unsel. Und ich weiß nicht, ob es ähnliche Aussagen in anderen Ländern gibt. Aber das war zum Beispiel einer der Spleens geradezu des Surkamp-Verlegers, eine fast devote Haltung zu seinen Autoren. Heute wirkt das alles ein wenig lächerlich. Passt. Aber ich habe mir überlegt, einfach nur der Gedanke, der mir vorhin einfiel, was wäre, wenn alle Autoren streiken würden? Was wäre, wenn alle Autoren einen Generalstreik anzetteln? Dann allmählich alle anderen Künstler. Was würde passieren? Ich glaube, die Journalisten würden darüber berichten. Die Politiker wären verblüfft eine Weile, dann würden sie zur Tagesordnung übergehen. Die, die mit dem Handel der Werke, der schöpferischen Arbeit all dieser jetzt im Generalstreik befindlichen Künstler befasst sind, die wären natürlich bestürzt. Und dann würden sie vielleicht übergehen zum Handel mit Klassikern, also zu dem, was man bereits hat. Sie würden wahrscheinlich, wenn sie echte Unternehmer sind, sagen, okay, wir lassen uns zu nichts mehr zwingen. Bleibt im Generalstreik. Wir werden alles, was wir schon sozusagen an Rechten erworben haben, weiter auswerten und ihr jetzigen, die jetzt nun gerade leben, werden uns zu nichts zwingen. Das ist ja nur ein Gedankenspiel, aber das soll eigentlich zeigen, wie vielleicht die Relationen sind. Was man vielleicht doch nie vergessen soll in diesem ganzen Gespräch zwischen Produzenten und Konsumenten und Vertreibern und Vermittlern und Politikern, dass der Urakt des Ganzen immer der ist eines Menschen, einer Frau, eines Mannes, der irgendwo sitzt und sich etwas ausdenkt. Und ob ihm etwas einfällt oder nicht. Und wie er sein ganzes Leben darauf ausrichtet, wie er sozusagen seine Einsamkeit organisiert, um etwas zu schaffen, was dann vielleicht oder auch nicht gebraucht wird. Aber er, im Zweifelsfalle, wenn er zum Beispiel Dichter ist oder wahrer Künstler, wahrer Romancier, wird sozusagen sein ganzes Leben in die Waagschale werfen. Für ihn ist das kein Termingeschäft, für ihn ist das kein sozusagen Produkt wie jedes andere. Er hat dann nur dieses. Und das ist sozusagen das Größte, was er wagen kann. Es kann schief gehen. Und deshalb glaube ich, ist es ganz gut, dass wir hier über Sicherheiten dieser Existenzform reden. Absicherungen wie das Urheberrecht oder wie zum Beispiel Vorschüsse in Verlagen. Ich wollte nur anmerken, ich habe in meinem ganzen Leben nie einen Vorschuss bekommen. Dichter bekommen keinen Vorschuss. stellen Sie sich das einfach vor, also die Szymborska hat nie einen Vorschuss bekommen, Montal hat nie einen Vorschuss bekommen, Brodsky hat nie einen Vorschuss bekommen, vielleicht als in Amerika war, schalten wir mir das Mikro bereits ab, nee.
Ja.
Also das ist nur noch, um so eine feine Differenz aufzumachen zur Dichterexistenz. Dichter bekommen keinen Vorschuss. Gedichte sind eine Ware, mit der man wirklich nicht spekulieren kann. Der große Denker, Filmemacher, Dichter Pasolini hat einst gesagt, Gedichte sind das Einzige, was wirklich kein Konsumprodukt ist. Und wenn mir jetzt jemand erwidert, ja, aber gut, Gedichtbände werden doch auch verkauft, ist das kein Einwand. Der Gedichtband ist noch immer kein Konsumprodukt. Es mag dann sein, dass wenn irgendein Dichter sehr erfolgreich ist, es Massenauflagen gibt, aber wir haben doch das Phänomen, dass genau diese Form der Literatur noch immer kein Konsumprodukt ist. Prosatexte können sehr wohl zum Spekulationsobjekt werden und das ist natürlich das gemeinsame Risiko, das alle dann tragen. Und wir haben das in den letzten 10 Jahren erlebt, was es da für wahnsinnige Gewinnspannen plötzlich gab. Wir haben in Deutschland, in Frankreich, in England, in Amerika das Heraufkommen von Buchpreisen erlebt, die das ganze System ordentlich anheizen und dafür sorgen, dass es den oder die Romane der Saison gibt. Das sind alles Marktmechanismen. Das war aber nicht die Frage, oder?
Die Frage war, was Ihr Eindruck war, als Sie das erste Mal...
Ja, also da muss man noch dazu sagen, wenn hier steht jemand oder sitzt jemand, der zunächst mal noch aus einer anderen Welt kam, der überhaupt nicht gewohnt war an die Mechanismen dieser Marktwirtschaft. Und als ich dann diesen ersten Kritikerempfang absolvierte, gab es im Anschluss wie hier so einen kleinen Empfang und man fragte mich, ob ich den Mann in der ersten Reihe gesehen hätte. Und ich hatte ihn nicht gesehen. Haben Sie nicht Reich Ranicki gesehen? Reich Ranicki war der bedeutendste Kritiker des Landes, den man eigentlich als junger Autor hätte zulächeln müssen. Auch nur um Blickkontakt aufzunehmen. Ich hatte nicht mal den Blickkontakt.
Wenn man Ihr Werk verfolgt über jetzt 25 Jahre, stellt man fest, dass Sie von den deutschsprachigen Lyrikern derjenige sind, auch von den Essayisten, der am meisten übersetzt wird in europäische, auch außereuropäische Sprachen. Also wenn man diese kleine Fläche nimmt, so reicht das gar nicht aus, um das zu wieder darzustellen, Fahnen zu zeigen, jener Länder, in die sie übersetzt sind. Was bedeutet Ihnen diese europäische Rezeption und was erscheint Ihnen daran noch verbesserungsbedürftig?
Als ich mit vielen anderen Hunderten und Tausenden 1989 in Berlin auf die Straße gegangen bin, demonstriert habe, wollte ich nicht einfach nur nach Westdeutschland. Ich wollte nach Europa, ganz simpel. Ich hatte diese Sehnsucht nach einer größeren Kultur, nach Zugängen zu anderen Ländern, anderen Quellen. Und das hat bis heute eigentlich nicht aufgehört. Ich gehöre deshalb auch nicht zu den Enttäuschten dieses Wendeprozesses, denn ich habe es geschafft. Ich habe die Möglichkeit, mich in Europa frei zu bewegen. Europa ist für mich nicht nur eine Idee, sondern eine absolute Realität des täglichen Lebens. Ich pendle zwischen 3-4 Ländern manchmal im Monatsrhythmus. Und ich bin natürlich sehr froh, dass meine Sachen übersetzt wurden in die verschiedenen europäischen Sprachen. Wenn ich das heute im Rückblick betrachte, muss ich sagen, das war natürlich alles ein sehr ungeordnetes Geschehen. Viele dieser Übersetzungsprojekte haben zu tun mit Leidenschaft einzelner Menschen, nämlich etwa anderer Dichter oder Übersetzer, die das zunächst mal frei und wieder unbezahlt auf eigene Faust taten. Dann kam ein Verlag, der das dann unterstützte. Das ist ein Auf- und Ab-Geschehen. Also für mich heißt es gar nichts mehr, ob ich bei einem Eger Klag jetzt in Serbien plötzlich ein Buch bekomme, auf der einen Seite, oder da ist der wichtige New Yorker Verlag, Pfarrer Stratus und Giraud, von mir Sammlungen rausgebracht hat, ob nun Gallimard oder nicht Gallimard. Es geht darum, noch zur Lebenszeit anwesend zu sein in den verschiedenen Sprachen, falls das gelingt.
Anwesend, das sind Sie bestimmt. Klaus Grünbein lebt in Rom, lehrt in Düsseldorf, ist häufig in Berlin und so wie er es eben geschildert hat, ist er immer wieder zu Diskussionen, Buchpräsentationen in anderen Städten unseres Kontinents. Sie haben einen, man nennt das auf Deutsch Mutterverlag, so nennen darf, weil wir eine Verlegerin haben, da liegt dann auch noch eine gewisse Ironie, eine ironische Wolke. Aber was bedeutet Ihnen eigentlich die Unabhängigkeit dieses Verlags? Ich meine, so ein Konzernverlag, wir haben das ja eben schon gehört, Penguin, das bietet doch viele Vermarktungsmöglichkeiten. Sie doch leichter nach Neuseeland bringen. Und so, also was bedeutet das?
Na, zunächst einmal, ich habe vorhin den Begriff der Symbiose gehört, der hat mir gut gefallen. Ich habe von Beginn an diese symbiotische Beziehung erfahren. Das hing damals natürlich zusammen mit dem alten Verleger Siegfried Unseld, der mich persönlich sozusagen adoptierte. Und ich hatte seither gar keinen Grund mehr, diesen Verlag zu verlassen. Übrigens auch nicht in Krisenmomenten, das ist sehr wichtig. Ich habe Kollegen gehabt, die mit mir gestartet sind, die an irgendeiner Stelle der Wegbiegung ausgeschieden sind oder für sich andere Optionen ergriffen haben. Ich betone nochmal, es gibt auf diesem freien Markt tausende Verlockungen. Ich hatte mich für diese Treue entschieden und das hat damit zu tun, weil ich beim Surkamp Verlag eine Art Familiarität erlebt habe, die eher selten ist im deutschen Verlagsgewerbe. Wir haben vielleicht noch ein oder zwei andere Verlage dieser Art, wo man ähnliche Langzeitautoren, Verlagsbeziehungen, Bindungen antreffen wird. Die haben natürlich im sozusagen Mikrobereich zunächst mal mit der Beziehung zu irgendeinem Lektor zu tun. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt bei Surkamp inzwischen den dritten Lektor. Also zwei der Lektoren sind irgendwann ausgeschieden, die waren gute Freunde von mir und ich war spätestens nach dem Ausscheiden des zweiten auch in einer Art kritischen Situation. Ich hab mich schon auch einmal quasi wie ein Scheidungskind gefühlt. Aber dann gab es eine Lösung und seit vielen Jahren ist das eine stabile Beziehung. Und ich habe tapfer alle Abwerbeversuche abgewehrt.
Aber kommen wir nochmal zurück auf diese internationale Ausstrahlung, das ist ja sehr ungewöhnlich, dass ein zeitgenössischer Lyriker so viel Aufmerksamkeit bekommt wie Sie. Und dennoch gibt es, und so viele Übersetzungen finde, vorzügliche Übersetzungen, soweit ich das beurteilen kann, gibt es in die skandinavischen Sprachen, ins Russische, ins Französische, ins Italienische, Spanische, und dennoch gibt es da etwas, was Sie sich, wo Sie sagen würden, da fehlt noch etwas, das ist verbesserungsbedürftig, das könnte perfektioniert werden, verbessert.
Kann es sein, dass wir die Leute wenigstens langweilen?
Nein. Ja,
doch, hier wird so viel geredet und ich glaube, das ist auch gar nicht so interessant mehr. Was ist verbesserungsbedürftig? Nein, ich weiß, wir sind hier, um vielleicht sogar sehr konkret über gewisse Maßnahmen zu reden, die getroffen werden müssen, um sozusagen diesen Bereich des Büchermachens zu schützen. Es ist ein sehr fragiles Verhältnis, das weiß ich. Ich habe vorher ein bisschen überlegt, was sind denn die sogenannten Issues, was muss ich hier adressieren? Wir haben über Urheberrecht geredet und diese Dinge, das ist ganz gewiss klar, wobei ich auch dazu sagen muss, ich habe das Problem, dass ich mich natürlich immer auf zwei Seiten der Barrikade sehe. Ich bin der Produzent und ich bin aber auch selber der Nutzer. Ich bin ein Mensch, der illegal Filme streamt. Sorry. Ja, was? Also bitte Aufrichtigkeit. Es gibt diese Momente immer. Ich bin allerdings auch der Mensch, der Bücher vor allen Dingen kauft. Ich kaufe viele Bücher. Ich habe wahnsinnige, soll ich sagen, Betriebsausgaben im Buchbereich. Ich bin verführbar. Ich komme mit großen, dicken Bücherpaketen nach Hause. Ich bin sehr zögerlich, was das E-Book betrifft, als Nutzer sowieso. Ich bin ganz froh, dass der Verlag da jetzt auch aufrüstet. Das wollte ich Ihnen aber nur zurufen, das ist nicht ganz so einfach. Also auch, so wie ich immer sage, die Politik-Schelte muss sofort übergehen in Wähler-Schelte. Die Markt-Schelte muss sofort übergehen in Konsumenten-Schelte. Ich hatte neuerdings meine Schwierigkeiten, einfach nur auf Amazon herumzuhacken, weil ich plötzlich im Nahbereich meiner Familie Forschung machte und stellte fest, alles Amazon-Besteller. Was will ich da noch sagen? Also, und so weiter. Also Sie sehen, es ist wahnsinnig komplex, das Ganze. Also ja nun, was, wie, huhu, also ich selber mache es gar nicht mal, aber ich weiß inzwischen, wie schwierig es ist, zu urteilen. Jetzt war die Frage, was kann verbessert werden?
Was wünschen Sie sich besser oder was wünschen Sie sich anders in der Verbreitung Ihres Werkes in den europäischen Ländern? Oder ist das in Ordnung, ist es gut?
Es ist gut.
So, das nehmen wir als Schluss, meine Damen und Herren. Sie sehen anhand der Antworten von Urs Grünwein, wie sehr ein Verlag doch vom Eigensinn, vom Besonderen lebt, vom Eigensinn der Autoren, von dem Hermann Hesse gesagt hat, dass er Spaß mache. Das tut er auch, insofern ist das eine besondere Verbindung. Mit Urs Grünwein haben wir einen Autor, der eine Strahlkraft hat, weit über unser Land hinausreicht. Ein solcher Autor ist natürlich ein Glücksfall, aber diese Glücksfälle gibt es und Sie haben heute auch die Gelegenheit, ihn kennenzulernen und mit ihm über den bisher noch ins Gespräch zu kommen. Vielen Dank.
Thank you so much. I think as MEP, we have very hard work. It's more difficult than other. Yesterday we had the Pope. Today we had the 300 billion investment plan. And life has not been so easy. But as an MEP, I think one of the good reasons to be really grateful for the opportunity to have this mandate is evening like this. Because then we really feel that we need to defend something we have in common, which is a European culture. And so for me, I just want to say thank you, because it's been so exciting to have these three dialogue that really make us have the feeling that we have something in common, that we really have to defend, and that we have to get all together strongly to make sure it stays. So we will be on our side. Yes,
okay. Vous remerciez, mesdames et messieurs les députés européens, mes collègues éditeurs et toutes celles et tous ceux qui ont participé à ce dîner autour de ce dialogue très particulier entre auteurs et éditeurs. Je voudrais dire un merci tout spécial à Jérôme Ferrari, à Jonathan Coe et à Urs Grünwein, à leurs éditeurs, Marie-Catherine Vacher, à Joanna Pryor et Thomas Spahr, et vous dire que, comme vient de le dire Pervenche Pérez, c'est une soirée particulière, une soirée autour de l'intimité du dialogue entre les auteurs et les éditeurs, et l'intimité aussi de ce que représente l'acte de création. Et je crois que c'est autour de ces thèmes que nous devons réfléchir et que nous devons travailler pour promouvoir l'exception culturelle, promouvoir la créativité et la création, promouvoir la juste rémunération des auteurs et mettre tous ceux qui ont envie de lire ou tous ceux à qui nous donnerons l'envie de lire les moyens de pouvoir le faire le plus facilement possible. Nous renouvellerons l'an prochain cet événement. Ce sera au mois de novembre, ce sera peut-être le 25. Ce sera à Strasbourg et ce sera au cours de la session parlementaire d'automne
à Strasbourg. Merci beaucoup de votre attention et bonne fin de dîner.